Mes amis, aujourd'hui, la grande question concerne la résurrection et ce qu'elle peut changer pour nous. Oui, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais dans un monde sans espoir, il faut avoir le courage de dire que la résurrection du Christ appelle le chrétien à devenir un homme pascal, c'est-à-dire un témoin vivant de la lumière dans nos réalités humaines habitées par les ténèbres. Un homme pascal. Eh bien, pour moi, cette expression résume notre vocation la plus haute, la plus grande, notre vocation de chrétien, à savoir être nous-mêmes les témoins vivants du Christ ressuscité. Les chrétiens le savent. Il le proclame, la résurrection du Christ est bel et bien le cœur du kérigme, c'est-à-dire le centre du message de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, mort et ressuscité, comme le dit l'Évangile, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement dit, la résurrection est le fondement de toute la foi chrétienne. Et elle transforme radicalement non seulement la destinée humaine en général, mais aussi notre vie quotidienne de croyants en particulier. Elle n'est pas seulement un événement historique, mais une réalité qui irrigue tous les aspects de notre vie chrétienne. Alors permettez-moi de vous dire quelques aspects, et d'abord, premièrement, la signification de la résurrection. La résurrection, nous dit l'Évangile, est la victoire de la vie sur la mort. Le Christ, en assumant la mort, en a brisé le pouvoir. Et ce n'est pas seulement un retour à la vie biologique, mais une transfiguration littéralement de l'existence humaine. Par cette victoire, la mort devient un passage et non plus un terme, une fin, un terminus. Elle est passage, elle est en cela aussi le gage de la résurrection future des croyants, de chacun de nous qui plaçons notre confiance et notre existence en Jésus-Christ. Comme le dit l'apôtre Paul, c'est en 1 Corinthiens 15, le grand chapitre sur la résurrection. Nous proclamons, dit Paul, que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors comment quelques-uns d'entre vous peuvent-ils dire que les morts ne ressusciteront pas? Si tel était le cas, le Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à proclamer et vous n'avez rien à croire. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien. Et vous êtes encore en plein dans vos péchés, et il en résulte aussi que ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les êtres humains. Mais, poursuit l'apôtre Paul, en réalité, le Christ est ressuscité d'entre les morts, en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Fin de citation. Et puis, Paul écrira plus loin que la résurrection du Christ annonce que nous ressusciterons avec un corps transfiguré, incorruptible, participant à la gloire divine. Oui, mes amis, la résurrection est une nouvelle création. Et comme le disait un père de l'Église du IVe siècle, Grégoire de Nice, Nice en Asie mineure, je cite, « Par la résurrection, Dieu commence l'histoire humaine depuis l'intérieur. » Oui, c'est aussi la bonne nouvelle du début d'un monde nouveau, d'une nouvelle humanité. Et comme le dit l'Écriture, le Christ ressuscité est en somme le nouvel Adam, le nouveau départ de l'humanité, inaugurant une vie nouvelle, libre du péché et de la mort. Venons-en maintenant aux incidences concrètes que peut avoir la résurrection sur notre vie de chrétien et notamment notre vie quotidienne. Alors il faut le dire et en témoigner, la résurrection n'est pas une vérité abstraite, mais bel et bien une expérience vivante. Elle transforme concrètement notre manière de vivre, de prier, d'aimer et même de souffrir. Car, oui, même au cœur de la souffrance, la résurrection rappelle que Dieu a voulu que la vie puisse avoir le dernier mot. Et comme le disaient les premiers chrétiens, je cite, « Le Christ est ressuscité, rien n'est perdu. » La croix n'est jamais séparée de la résurrection. C'est pourquoi dans la foi chrétienne, même le vendredi saint est empreint de lumière pascale, annonçant ainsi que toute souffrance, que la mort même, peut être traversée avec le Christ ressuscité. Et pour un chrétien, mourir dans le Christ, ce n'est pas une tragédie, c'est un passage, je l'ai dit, mais en quelque sorte aussi une Pâque personnelle, oui, un passage vers la vie, car c'est ce que veut dire le mot Pâque, passage. C'est affirmer une espérance et le fait que la présence du Christ vivant en nous par son esprit nous donne une paix intérieure face à la finitude, une sérénité qui transforme la vie. Et puis, plus simplement, la résurrection est la source de notre joie chrétienne. Elle est si centrale et essentielle que les chrétiens peuvent se saluer en disant « Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». C'est une attitude intérieure, un regard illuminé, une confiance victorieuse des épreuves que nous devons certes affronter. Une manière d'habiter le monde dans la lumière du royaume déjà présent. Enfin, il faut dire avec tous les chrétiens du monde, il faut affirmer surtout que la résurrection est un appel à une vie ressuscitée dès maintenant. La résurrection est à vivre ici et maintenant par anticipation, parce que la résurrection ne concerne en effet pas que l'au-delà, mais elle appelle chacun et chacune d'entre nous à vivre, oui, déjà ici et maintenant, une vie ressuscitée, à devenir, je l'ai dit et j'y reviendrai encore, à être des hommes et des femmes pascales, transformés par la lumière de Pâques, qui se laisse transfigurer par l'Esprit Saint qui veut agir en nous et nous transformer chaque jour davantage à la ressemblance de Jésus-Christ. On appelle cela le processus progressif de la sanctification, ou celui de la déification, disent d'autres, et notamment les pères de l'Église dont j'ai déjà parlé. Mais comment cette transformation peut-elle se faire? Eh bien, lui, le Seigneur, par sa grâce, veut agir en nous. Et nous, nous sommes appelés à collaborer avec lui, à travailler de notre côté pour ne pas lui faire obstacle et combattre ce qui nous est instinctif du fait de notre humanité pécheresse par nature. Mais alors, en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, ceux qui nous ont précédés nous ont appris que cela consistait très concrètement à vivre selon l'Esprit, à vivre conduit par l'Esprit de Dieu agissant en nous, avec son aide à lutter pour vaincre nos passions, à aimer et à nous ouvrir à la communion avec Dieu et avec les autres. Les passions, nos désirs et nos comportements instinctuels humains, nos tentations et nos travers font partie de notre condition de créature éloignée de Dieu, littéralement déchus, ou plutôt abîmés, comme nous l'apprend le livre de la Genèse. Et cela, on le sait trop bien, constitue en nous le vieil homme, comme le dit le Nouveau Testament, le vieil homme qu'il s'agit de faire mourir avec l'aide de Dieu. Or, ce qui pourrait nous paraître regrettable, mais finalement assez normal, ou n'être que des mauvaises habitudes communes à tous les hommes, voire de simples traits de nos caractères, tout cela est un état anormal pour un chrétien et ne doit pas avoir de place dans l'homme nouveau, la nouvelle créature que nous sommes appelés à devenir pleinement dans le Christ. La lutte contre le vieil homme, avec l'aide de l'Esprit Saint, et je le dis pour faire bref, contre nos instincts et nos passions, est donc une nécessité de base de la vie spirituelle. Elle doit être permanente. Il s'agit là, avec l'aide du Seigneur, de rester attentif et vigilant. Vivre du Christ ressuscité, en homme et en femme pascale, implique donc de se battre spirituellement, de lutter pour vivre en conformité avec les impératifs de l'Évangile. Nous, chrétiens, devons donc accepter que nous aurons à lutter jusqu'à notre dernier souffle. D'ailleurs, le but de la lutte n'est pas d'être délivré de la lutte. La lutte durera donc toujours. Seulement, plus on lutte, plus on a de chances, aidé par la présence active de l'Esprit de Dieu, agissant en nous, conjointement à nos propres efforts, d'être vainqueur dans la lutte. Cela dit, cette ferme décision de tous les instants n'est de loin pas une fuite du monde, mais en quelque sorte un enfantement à la vie divine. C'est ainsi qu'un chrétien disait que, je le cite, « ressusciter intérieurement, c'est mourir au péché et naître à l'amour ». Il avait compris que ce que Paul disait déjà aux Galates au chapitre 2 était une réalité pour notre vie de tous les jours. Maintenant, dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, et ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. C'est en cela que la résurrection du Christ est pour nous, puis-je dire, le soleil de la foi chrétienne, car elle donne un sens nouveau à chaque geste de notre vie quotidienne. Elle transforme déjà le deuil en espérance, la souffrance en offrande, la mort en essence. Elle nous appelle à devenir des hommes et des femmes pascales, les témoins vivant de la lumière dans un monde encore habité par les ténèbres. Dès lors, voici mon dernier point, parce qu'il est temps de répondre à cet appel adressé en cet instant à chacun de nous, en répondant à la question « Mais qu'est-ce qu'un homme ou qu'une femme pascale ?» Un homme pascal est un chrétien, un homme ou une femme bien sûr, qui vit de la résurrection du Christ et qui irradie cette lumière dans sa manière d'être, de parler, d'aimer, de souffrir, de prier et de mourir. Et il ne s'agit pas là d'un idéal théorique, mais d'une transformation intérieure, concrète, progressive, je l'ai dit, rendue possible par la grâce. On pourrait dire tout simplement que l'homme pascal est celui ou celle qui vit déjà ici-bas la vie du royaume, parce qu'elle laisse le Christ par son esprit agir en nous. Et cela concrètement, cela signifie que l'homme pascal devient porteur de paix, même au cœur des tempêtes du monde. Par exemple, une mère chrétienne qui élève ses enfants dans la foi avec douceur et patience, malgré les difficultés quotidiennes. Par sa paix, sa bonté, son pardon, elle rayonne le Christ sans même prononcer son nom. Et puis, il s'agit aussi concrètement de répondre au mal par le bien. Cela a pour conséquence que dans un monde rongé par la violence et la haine, l'homme Pascal refuse la logique du monde. Il ou elle agit selon la logique de la résurrection, à savoir que l'amour est plus fort que la haine. Par exemple, un chrétien injustement traité au travail, au lieu de se venger ou de médire, continue de travailler fidèlement et prie pour ceux qui l'ont blessé. Eh bien, ce choix résolu et persévérant manifeste le Christ vivant en lui. Christ nous a invités à le suivre et à porter la croix avec espérance. Et cela signifie qu'être Pascal, ce n'est pas fuir la croix, mais la porter à la lumière de Pâques. Par exemple, une personne atteinte d'une maladie grave, ou mise à mal par la vieillesse, le handicap ou le deuil, qui vit sa souffrance ou sa solitude avec une foi inébranlable et une joie paisible, cette personne devient un signe vivant que la mort n'est pas la fin, et son entourage est bouleversé par cette espérance pascale, ou en tout cas interpellé. Et me faut-il ajouter encore que l'homme pascal donne sans attendre un retour, à l'image du Christ qui s'est offert pour tous. Par exemple, dans une paroisse ou une communauté chrétienne, une personne accueille les étrangers, visite les malades, console les tristes avec un sourire lumineux. Eh bien, son discours, elle incarne la résurrection dans ses gestes les plus simples. Et quand elle témoigne de sa foi par ses paroles, alors elle touche le cœur de ses vis-à-vis. De même, un chrétien pascal est heureux de pouvoir prier dans la lumière du ressuscité. Sa prière est emplie d'actions de grâce, même dans l'épreuve. Il ou elle devient en quelque sorte un pont vivant entre la terre et le ciel. Et sa prière bénit sa paroisse ou sa communauté chrétienne et ceux et celles pour qui il prie. Alors, mes amis, que conclure de tout cela? Eh bien, au moins deux choses. D'abord, que le monde et ceux qui nous entourent attendent des témoins lumineux et aimants plus que des discours. Et dans un monde marqué par le doute, le relativisme, l'égoïsme, la haine, la peur, notre témoignage de vie a plus de poids que des mots. Et cela signifie que même dans les ténèbres, il s'agit de garder l'espérance pascale pour illuminer les ténèbres de ceux qui nous entourent et pour incarner la présence du Christ parmi eux. Ensuite, que nous sommes vraiment sel et lumière dans le monde. Comme le dit Jésus en Matthieu 5, l'homme ou la femme pascal ne se retire pas du monde, mais il y est envoyé comme le ressuscité a envoyé ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle. Il est sel et lumière dans le monde. Et ce témoignage commence dans le quotidien, travail, famille, quartier, et j'en passe. Il s'agit de vivre chaque instant comme un reflet du royaume qui vient, avec joie, simplicité et amour. Alors permettez-moi une dernière fois de vous citer à ce propos un autre père de l'Église du IVe siècle, Grégoire de Nazianz, qui disait ceci. « Soyons aujourd'hui ce que nous serons un jour, des êtres ressuscités, vivant déjà la vie nouvelle. » Écoutez bien. Soyons aujourd'hui ce que nous serons un jour, des êtres ressuscités, vivant déjà la vie nouvelle. Eh bien, son invitation pressante nous montre bien que le chrétien, un homme ou une femme pascale, est avant tout une personne ressuscitée, en marche, un homme nouveau dans l'homme ancien. Voilà, mes amis, je termine. Accepter de devenir un homme pascal, une femme pascale, c'est laisser la résurrection de Jésus transformer notre cœur au quotidien, nos regards, nos gestes. Ce n'est pas une perfection morale, mais une transfiguration progressive de notre être, si nous y consentons, qui se fait à la fois par l'action de l'Esprit de Dieu en nous, mais uniquement avec notre ferme volonté personnelle d'y collaborer quotidiennement par nos choix et nos efforts concrets. C'est être humble et joyeux, aimant et libre, patient et fervent. C'est être dans le monde un rayon du matin de Pâques. Et dans ce monde où les ténèbres semblent parfois l'emporter, nous deviendrons alors les témoins de l'aube de l'amour qui ne finit pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.